Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour Alain. À tous.
Avec une question pour commencer, d'où viennent donc les lentilles d'eau qui envahissent les étangs et les bassins?
Du ciel et du fond de l'eau, mais pour bien comprendre, petite description d'une plante étonnante à plus d'un titre avant de poursuivre. La lentille d'eau, Lemna minor pour les puristes, est une plante aquatique que nous connaissons tous. Elle est facilement reconnaissable à sa toute petite feuille verte et ronde qui flotte à la surface de l'eau. Je bafouille, je vous prie de m'excuser.
Mais faites-vous plaisir.
Bah oui, et qui peut, c'est bien problème, devenir envahissante. Alors, contrairement aux apparences, la lentille d'eau possède une tige, une racine et elle fleurit. Mais encore faut-il avoir des microscopes à la place des yeux pour s'en apercevoir. La feuille, tout d'abord, est appelée fronde.
Vous êtes en forme ce matin.
Non, mais il fait pas très frais ce matin et donc je bafoue quelque peu. Je disais donc que la feuille, est appelée fronde. Et elle est en réalité une tige épaissie et au revers, elle possède une racine minuscule de que quelques millimètres pour absorber l'eau. Pour la fleur, c'est le service minimum. Elle est verte et sans pétales. Autant dire qu'on ne la voit pas.
Oui, mais si la plante possède une fleur, ça veut dire qu'elle produit donc une graine?
C'est logique. Et si elle permet à la plante de se multiplier, la lentille d'eau préfère la reproduction végétale pour pouvoir envahir en très peu de temps votre bassin. Alors, pour faire simple, la petite feuille ronde fabrique 2 ou 3 bourgeons en quelques jours seulement. Des bourgeons qui deviennent des feuilles et qui se détachent sitôt formées. Vous demandiez d'où venaient les lentilles. Il est maintenant possible de répondre à votre question d'une feuille qui s'est multipliée toute seule ou d'une graine ingérée par un oiseau qui vient boire dans votre pièce d'eau et pas seulement boire.
Et oui. Vous me disiez aussi que les lentilles d'eau disparaissent en hiver, mais alors que deviennent-elles?
C'est là où ça devient extraordinaire. En hiver, elles redoutent le froid aussi, préfèrent-elles se protéger? En automne, elles se libèrent de l'air contenu dans la feuille et, ne pouvant plus flotter, elles coulent au fond. Au printemps, elle est capable de regonfler sa feuille comme une bouée et celle-ci remonte à la surface. C'est pour ça qu'on les voit réapparaître souvent à une vitesse incroyable parce qu'elles sont au fond de l'eau.
Et donc elles prolifèrent. Alors comment éviter cette prolifération des lentilles d'eau?
Alors il est vrai que leur présence peut causer quantité de problèmes comme, bien entendu, priver de la lumière les plantes aquatiques et les poissons. Et puis elle peut se développer au détriment des autres plantes aquatiques. La meilleure méthode pour s'en débarrasser est bien évidemment l'épuisette, sachant que la lentille d'eau peut parfaitement servir d'engrais ou aller sur le tas de compost, ou bien mettre des carpes, des poissons rouges, ou encore mieux, d'adopter les canards, ils adorent.
Les canards, c'est con, mais ça fait cossu, comme disait Belmondo dans un film dont je ne me rappelle plus le titre. Yann vous demande, question des auditeurs, existe-t-il une hauteur à respecter en plantant une haie pour en faire un brise-vent?
Oui, il y a des haies, bien entendu, il y a des distances à respecter, car en fonction de la hauteur de la haie, eh bien, vous pourrez davantage protéger la surface du sol. Par exemple, il faut savoir qu'en moyenne, la hauteur est capable de protéger entre 20 et 30 fois la surface. Exemple, si votre haie fait 1 mètre de hauteur, vous pouvez penser que vous allez protéger 20 mètres au-delà de la haie. J'espère que vous me suivez.
Je vous suis.
Alors, attention à ce que la haie ne soit pas percée, bien évidemment, et que les feuilles, les branches les plus basses commencent au ras du sol. Mais effectivement, on peut dire qu'une haie de 2 mètres d'épaisseur minimum, car il faut être capable de bloquer le vent, est capable de protéger un petit jardin de 500 mètres carrés sans aucune difficulté.
Véronique vous pose la question, quelle est la fréquence moyenne pour arroser des bambous?
Les bambous ne sont pas, contrairement à ce que beaucoup semblent croire, des plantes aquatiques. Vous-même, Eric, je sais que vous adorez les bambous.
Et j'en ai.
Et oui, et vous m'avez vous-même dit que la densité de leur feuillage et de leur tige faisait que le soleil caressait rarement la terre où vivent vos bambous. Pas de soleil, donc peu d'évaporation. C'est une sorte de paillage automatique. Donc les bambous demandent une terre fraîche, humide, mais jamais inondé. Donc, quelle est la fréquence? Faire en sorte simplement que la terre soit toujours humide, jamais plus.
Daniela voudrait savoir quelle terre il faut avoir pour rempoter des plantes carnivores.
C'est toujours un peu compliqué les plantes carnivores, parce que les plantes carnivores vivent dans des milieux assez particuliers. Ce sont donc des plantes, déjà il en existe 700 espèces de plantes carnivores, autant vous dire que le choix est vaste. Ce que détestent déjà les plantes carnivores, c'est avoir les racines qui baignent dans l'eau. Ça c'est mortel
rédhibitoire.
Pour elles. Ah oui, mettez donc toujours des billes d'argile, des tessons de terre, enfin de restes de de peau en terre, mais jamais, jamais de terre qui retient l'eau. Et les terres acides, la terre de Bruyère, leur convient parfaitement. Il existe aussi quantité d'engrais spécial plantes carnivores dans le commerce, mais cultiver des plantes carnivores, être capable de les conserver chez soi, atteste, si vous y arrivez, que là vous avez vraiment la main verte.
Et elles vous boulottent pas le bout des doigts ?
Non, mais par contre, il est vrai, j'en ai souvent parlé ici même, que les plantes carnivores peuvent manger autre chose que des insectes. Dans la ville, dans les serres de la ville de Lyon, il y a maintenant quelques années, on avait retrouvé le corps d'une souris qui était englutinée, parce qu'on, bien entendu, là, on est loin de Bob Morane, vous rappelez de Bob Morane, et les plantes qui attaquent. Là, la plante carnivore attire l'insecte, le colle par une stratégie de substance,
j'allais dire. Glisser la,
voilà,
la
glisse,
souris,
et ensuite, ingère.
Et
voilà. Donc là, non, donc rassurez-vous, c'était pas dangereux, mais dur à garder.
Dernière question, celle de Maïlis, qui a entendu parler de réversion pour une plante. Que veut dire réversion pour
C'est
une plante?
Simple, c'est quand la plante retourne à l'état d'origine. Quand vous avez une plante d'une sottise qui a été greffée rouge et qu'elle redevient blanc, c'est certain que la blancheur était la couleur initiale du végétal avant qu'elle ne soit modifiée. C'est quand la plante retrouve ce qu'elle était avant que l'homme ne décide de la transformer, tout simplement.
Allez, on va terminer avec un conseil pour le week-end.
Allez, deux livres, on est à 15 jours de Noël, c'est merveilleux. L'univers est un arbre, ouvrage merveilleux de Laura Filippucci, c'est publié chez Plume de Carotte. Ce sont des ouvrages dessinés merveilleusement avec de très belles histoires d'arbres. Et puis, vu que nous sommes proches de Noël, un deuxième ouvrage dans la même collection, signé Bernadette Pourquier et Cécile Gamboni, Bizarre, mais vrai, des arbres extraordinaires, curieux, mais vrais, qu'ils existent vraiment. Et là encore, c'est publié chez Plume de Carotte.
Et vous pensez déjà au cadeau de Noël.
Il est temps d'y penser.
Eh bien, c'est tant mieux. C'était La Main Verte d'Alain Baraton. À demain, Alain.
À demain.